Christian, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Sam, ça va bien?
Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Si tu pouvais te présenter un peu, puis donner un aperçu de ton riche parcours à nos auditeurs.
Ben oui, je m'appelle Christian Messier. En fait, je suis forestier de formation, hein. J'ai fait un bac en foresterie à l'Université Laval et j'ai terminé en 84. Et c'est quand même important. L'année est importante parce qu'en 84, on était dans les premiers grands changements du régime forestier au Québec. Et on commençait à se poser des questions sur le développement durable. On ne se posait pas trop de questions sur la biodiversité. C'est intéressant. En 84, c'était plutôt est-ce qu'on va avoir assez de bois? Est-ce qu'on va maintenir la quantité de bois? Et est-ce qu'on ne devrait pas même intensifier l'aménagement des forêts pour essayer de s'inspirer des régimes qu'on avait là, de la Finlande et la Suède. Hein. C'était nos exemples à ce moment-là. Donc, j'ai continué après, j'ai fait une maîtrise à l'Université Laval en étudiant la lumière. Je me suis beaucoup intéressé à la lumière parce que la lumière, c'est la première source d'énergie hein, qui fait pousser nos plantes et qui nous alimente éventuellement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et comme j'avais toujours été attiré par les forêts de l'Ouest canadien, j'ai migré vers l'UBC, la Colombie-Britannique, à Vancouver, pour faire le doctorat. Et je me suis laissé séduire par un projet qui visait à étudier les vieilles forêts du nord de l'île de Vancouver, là, complètement au nord. C'est des régions très pluvieuses où on trouve des cèdres de l'Ouest qui ont 1000 ans et plus, et on commençait juste à faire de l'exploitation forestière dans ces forêts-là. Et il y avait de grosses problématiques de régénération. On coupait des forêts qui étaient énormes et la croissance était très faible, la régénération était faible, et on se posait des questions, qu'est-ce qui se passe, etc. Et après ça, ben, j'avais un rêve de jeunesse d'aller dans les pays scandinaves, donc j'ai fait un postdoc en Finlande pendant un an. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié je dirais, mon séjour là-bas. Ça m'a ouvert les yeux sur, évidemment, la culture plus scandinave, la fameuse social-démocratie que j'ai beaucoup aimée, beaucoup plus d'égalité. Hein, on voit encore aujourd'hui, là, la Finlande est toujours considérée comme un des pays les plus exemplaires au niveau de l'éducation, le bonheur, dernièrement, le pays où les gens sont plus heureux. Mais j'ai aussi vu sur place, quelles étaient les conséquences de simplifier et d'aménager notre forêt de façon intensive, parce que les Finlandais avaient très bien réussi à faire ça. Donc, ils avaient une productivité forestière très forte par rapport à nous, qui avaient à peu près le même climat, sauf qu'ils commençaient à voir qu'il y avait des centaines, voire des milliers d'espèces qui étaient menacées de disparaître à cause de la perte d'espèces compagnes, la perte de bois mort, la perte de structure. Et ça m'a quand même ouvert les yeux, hein, parce que j'avais appris au niveau du bac que c'était des exemples à suivre. Et par la suite, ben, ça m'a, je dirais que ça m'a suivi dans le reste de mon parcours. Donc, j'ai été engagé à l'UQAM. J'ai commencé professeur à l'UQAM en 92. Et depuis 4-5 ans, là, je suis à mi-temps UQAM, UQO. Et mes champs de recherche là, ont évolué avec le temps, là, mais là, je m'intéresse beaucoup à la résilience de nos forêts. Donc, comment maintenir des forêts qui vont pouvoir s'adapter aux incertitudes présentes et futures, hein? De plus en plus, l'incertitude augmente. En anglais, il y a même un nouveau domaine qui se développe qui s'appelle « the deep uncertainty ». Et comment on prend des décisions quand on n'est pas certain de grand-chose dans le futur. Donc, il y a toute une science qui se développe là-dessus. Et je dirais qu'une chose qui m'a vraiment marqué, c'est la rédaction avec deux autres collègues d'un livre où on a vraiment critiqué la sylviculture classique telle que les Finlandais l'avaient mise en application et où on incorporait un élément beaucoup plus important de ce qu'on appelait la complexité, mais qui est vraiment l'incertitude et la capacité des forêts de s'adapter face à des nouvelles conditions. Et ça, ça continue je dirais, à influencer énormément la recherche que je fais. Je vais terminer pour dire que depuis à peu près 12 ans, je m'intéresse aussi à la foresterie urbaine via une chaire de recherche là, que j'ai avec le CRSMG Hydro-Québec. Et c'est quand même intéressant parce que j'apporte beaucoup de mes connaissances de la forêt naturelle pour la gestion des forêts urbaines. Et je dirais en toute humilité que la forêt urbaine a besoin de ce genre de nouvelles visions, là, parce que la forêt urbaine est aménagée de façon très, très, très éloignée de principes écologiques de base. Et je pense qu'il y a un besoin de retourner à ça. Et donc, ça va très bien de ce niveau-là. Et j'ai depuis 2 ans une chaire du Canada sur la résilience des forêts. Là, je suis en train de développer, je dirais, mon objectif, c'est de développer une nouvelle foresterie qui pourrait aider les forêts à devenir plus résilientes et qui pourrait même, je dirais, changer l'attitude qu'ont les gens de la foresterie, parce que globalement, les gens ont une mauvaise perception de la foresterie. Mais je pense que la foresterie pourrait jouer un rôle très, très important pour accélérer l'adaptation de nos forêts aux changements globaux. Et je dirais que c'est ma mission là, pour les 10 prochaines années.
OK, un parcours qui ratisse large. Je ne sais pas si on aura le temps de toucher tous les points que j'aimerais toucher dans le temps qui nous est alloué. Peut-être on fera un autre épisode. Mais plongeons sur, justement, à partir du début de ton parcours, les années 80, une foresterie plutôt simpliste ou simplifiée qui s'inspire de modèles étrangers. Bon, tu as parlé de la Scandinavie, l'Allemagne aussi a beaucoup influencé notre sylviculture, une
Parfait.
sylviculture qui n'était pas adaptée à nos écosystèmes, là, plus vastes, où la place de l'humain était moins présente. Ça semble avoir changé. Les régimes forestiers ont changé depuis les années 80. On est depuis 2010 dans un aménagement qu'on appelle l'aménagement écosystémique. Comment tu vois le secteur a évolué? Est-ce que tu trouves qu'on s'est éloigné de ce modèle-là scandinave? Et est-ce que on est sur la bonne piste en termes de complexité puis de résilience de nos forêts?
C'est intéressant parce que oui, la foresterie, il faut savoir que la foresterie s'est développée à un moment donné où en Europe, on manquait de bois et les gens se sont tournés vers l'agriculture comme modèle. Ils ont regardé qu'est-ce que l'agriculture fait, c'est qu'on enlève toute végétation naturelle et on va implanter souvent une espèce qu'on va essayer de faire pousser de façon intensive. Donc, la foresterie s'est beaucoup développée par rapport à je dirais, ce modèle-là. Au cours des ans, ça a un peu évolué. Évidemment, ça a changé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au Québec, si on lit la loi et si on lit les documents gouvernementaux, on va dire que la forêt maintenant est aménagée de façon écosystémique. Mais j'avais fait une entrevue l'année passée dans l'actualité. J'avais été assez dur avec ce qu'on fait actuellement. Je dirais que ça a très peu changé depuis ce que je voyais dans les années 20 ou dans les années 30, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on a changé les termes, on a fait quelques modifications. Peut-être que la plus grosse modification, c'est que maintenant, on fait plus attention aux cours d'eau et aux lacs. Ça, je dirais que ça a été quelque chose d'assez important. Là, maintenant, on est conscient de ça, on fait beaucoup plus attention. Ce n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements là-dessus, mais pour le reste, on a encore une vision qu'il faut favoriser quelques espèces commerciales qui ont une valeur commerciale aujourd'hui. On simplifie toujours les forêts, on vise toujours à planter quelques espèces de conifères qui ont une valeur commerciale aujourd'hui. Et je mets beaucoup d'emphase là-dessus parce que je vais revenir là-dessus, là, mais est-ce qu'ils vont aussi avoir la même valeur commerciale dans 50, 60 ans, 100 ans? On ne le sait pas. Et je dirais que finalement, la façon qu'on fait la foresterie aujourd'hui a très peu changé. Et c'est un constat quand même assez dur. Il y a eu des modifications esthétiques. On fait souvent des coupes à blanc un peu plus petites. On a commencé à laisser ce qu'on appelle des îlots d'arbres vivants à l'intérieur des coupes. On fait un peu plus de coupes partielles, mais pas énormément. Et on continue, quand on plante, à planter majoritairement deux à trois espèces en monoculture. Donc, pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Je vois, je dirais qu'on s'en va pas nécessairement dans la bonne direction, selon moi. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ce qu'on appelle un changement majeur de paradigme. L'aménagement des forêts ne devrait plus être un aménagement qui vise à favoriser quelques espèces d'arbres qui sont commerciales, mais plutôt justement à se poser la question vers quoi on s'en va en termes de climat, en termes de menaces biotiques, là, insectes, maladies, et reconnaître que notre meilleure défense contre cette incertitude-là, c'est la biodiversité, donc de maximiser la diversité des arbres qu'on a dans la forêt. Je fais souvent une analogie que les gens comprennent très bien et que peut-être que toi, Sam, tu vas comprendre si tu as commencé à mettre de l'argent de côté pour tes vieux jours. Mais si tu as commencé à mettre de l'argent de côté dans les vieux jours, tu pourrais, par exemple, dire, moi, je crois beaucoup en Tesla et je vais mettre tout mon argent dans une compagnie Tesla qui a une bonne croissance, un potentiel, et dans 30, 40 ans, je vais être riche parce que cette compagnie-là va avoir beaucoup, beaucoup augmenté de richesse. C'est un peu l'approche qu'on fait actuellement en foresterie. On mise sur quelques espèces en se disant que dans 50, 100 ans, bien, ça va être les espèces qu'on va toujours avoir besoin et que surtout que ces espèces-là vont toujours être là. Moi, je suis loin de penser que ça va être le cas, surtout avec les changements climatiques, les insectes, les maladies exotiques qui augmentent. Mais si tu vas voir un bon conseiller financier et qui te dit, est-ce que tu ne devrais pas plutôt essayer de diversifier ton portfolio dans des domaines économiques qui sont très différents, qui ne sont pas influencés les uns par rapport aux autres, pour t'assurer que tu vas peut-être avoir un revenu décent et qui va te permettre de satisfaire tes vieux jours. C'est ce qu'on nous conseille habituellement, diversification de notre portfolio dans des domaines très différents. Mais c'est exactement la même chose en forêt. Et d'ailleurs, on a développé une approche qui se base sur ce qu'on appelle des traits fonctionnels. Ça veut dire qu'on ne vise pas à maximiser les espèces d'arbres parce que tu peux avoir cinq espèces d'arbres dans une forêt, mais qui ont toutes la même susceptibilité à la sécheresse ou au vent ou à un insecte, à une maladie. Plutôt, on regarde un ensemble de caractéristiques biologiques qui ont un effet important sur le fonctionnement de l'écosystème et qui ont aussi un effet important sur leur capacité à résister à différents types de perturbations. Et on vise à maintenir des forêts qui ont la plus grande diversité qu'on appelle fonctionnelle, donc de traits fonctionnels. Et c'est vraiment exactement le même principe que la diversification de ton portfolio. Ça veut dire qu'on diminue les risques et on s'assure qu'à peu près, peu importe ce qui va se passer dans le futur, on va perdre des espèces, mais il y a des espèces qui vont profiter des perturbations et on va conserver une forêt qui va continuer à nous fournir les fonctions qui sont importantes pour nous. C'est ça qui est important. C'est moins de conserver les espèces, mais plus vraiment de conserver les fonctions. Et ça veut dire un changement totalement majeur du paradigme actuel. Ça veut dire de favoriser des espèces d'arbres qui aujourd'hui n'ont peut-être aucune valeur commerciale. En se disant que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de maintenir une forêt. Et là, on rentre dans toute la question d'ouvrir la valeur de la forêt à pas seulement la valeur de bois, mais aussi à tous les services écosystémiques, le carbone, filtration de l'eau, filtration de l'air, pollinisation, etc. Et à ce moment-là, ben, on va s'assurer d'avoir une forêt dans le futur. Et de toute façon, quels vont être nos besoins en bois et en fibres ligneuses dans 50 à 100 ans? Je pourrais dire qu'il n'y a personne sur Terre actuellement qui en a la moindre idée. Et donc, de planter encore aujourd'hui de l'épinette blanche ou encore du pain dans des sites, ou peut-être qui sont des sites corrects aujourd'hui pour ces espèces-là, mais c'est loin d'être certain que dans 50 ans, ils vont toujours perdurer. Mais en plus, on ne sait pas ça va être quoi le besoin futur. Et je pense que l'humain va toujours pouvoir utiliser des forêts, de la matière ligneuse, peu importe les espèces. On l'a vu là au Québec. Hein, au début, on coupait surtout du pain blanc. Après ça, on s'est mis à couper de l'épinette. Après ça, on s'est mis à couper du sapin. Et là, maintenant, on utilise du peuplier, des bouleaux. On a toujours su s'adapter aux espèces qui étaient en présence et je pense que ça va continuer. Et donc, le gros changement là, que je propose, c'est de ne plus favoriser une sylviculture basée sur nos besoins actuels d'espèces commerciales, mais sur la maximisation de la diversité fonctionnelle de nos forêts. Et j'ai proposé des projets au gouvernement et à plusieurs grandes compagnies canadiennes et américaines. Et il y a beaucoup d'intérêt. Donc, on est en train de développer, je vais terminer là-dessus, mais il y a en train de développer un projet avec une association canado-américaine de compagnies forestières pour tester cette approche-là en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec.
Vraiment intéressant. Puis on va revenir sur cette question de l'aménagement pour la résilience, là, ce que tu appelles vacciner nos forêts, non seulement au changement climatique, mais ce que les écologistes appellent les changements globaux, là, plus généralement. Mais j'aimerais partager un peu un ressenti que je pense que beaucoup de citoyens ont. Puis je vais me placer dans cette situation-là. Puis on l'a vu très récemment. Je ne sais pas quand on va sortir notre épisode, là, mais au mois de mars 2021, on a vu par exemple deux reportages médiatiques qui sont sortis dans les médias. Le premier, bien sûr, Enquête, qui s'intitulait L'argent pousse dans les arbres. Et c'est un peu le retour, là, ça vient de manière cyclique là, dans le débat public québécois, ce genre d'indignation de ce qui se passe dans notre cour arrière cachée, qui est notre grande forêt boréale. Qui vient, qui dit qu'il y a une genre de mafia politique et économique qui a vraiment pas à cœur le futur de notre capital naturel et qui vend au plus offrant notre nature, là, notre forêt. Puis on a même vu que les actions comme la gestion écosystémique avaient des conséquences insidieuses. Par exemple, en ayant des plus petits parterres de coupe, ben on multiplie les chemins, on augmente la fragmentation. Donc, même ce qui était des bonnes intentions ont eu des conséquences encore plus graves. Tu sais. Fait que cette indignation-là. Et en même temps, un autre reportage là, de la Semaine verte qui nous parle de la forêt du futur. Donc là, on est dans une nouvelle image d'une ce qu'on appelle une foresterie 4.0, où c'est automatisé, robotisé, il y a de l'imagerie par drone qui nous donne des modèles exacts et qui nous permettrait d'avoir une action très précise, autant avec les modèles climatiques que le marché, un genre d'Internet des choses qui nous permet d'avoir exactement la bonne offre pour la bonne demande, une gestion là, parfaite, dont l'industrie se prévaut, là, cette foresterie 4.0. Une foresterie hyper scientifique. Et donc, on est comme dans une dissonance. On ne sait plus qui croire. Est-ce que c'est une classe boboche qui fait juste vendre du bois sans se soucier de quoi que ce soit, ou bien on est entre les mains d'une classe d'experts qui va nous sauver de la fulgurance des changements climatiques. Où c'est qu'on se place? Qu'est-ce que tu penses de cette fameuse foresterie 4.0? Penses-tu vraiment que c'est la voie de l'avenir?
Mais en fait, je fais partie de cette équipe-là, hein, de la foresterie 4.0. Là, c'est une grosse subvention qu'on a eue pour, en fait, équiper nos forêts de beaucoup plus de sensors, de façons de faire un suivi beaucoup plus fin, détaillé de ce qui se passe dans la forêt. Et ça, je pense que c'est évidemment très, très important. Et c'est vrai qu'avec les drones, avec les lidars, terrestre et aérien, on est capable maintenant d'obtenir des quantités phénoménales de données. Et on est dans ce qu'on appelle le big data. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là? Ben, c'est ça la clé du succès ou de l'échec futur de nos forêts. C'est à peu près comme toute chose que l'humain développe, hein, au niveau technologique. On peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Mais je pense qu'on est là et il y a quand même des gros avantages là, en termes d'avoir des données en temps réel de ce qui se passe vraiment sur la forêt pour faire un diagnostic beaucoup plus précis, pas seulement au niveau, je dirais, régional, mais presque peuplement par peuplement. Et c'est là l'avantage, de cette technologie-là. Moi, j'y vois beaucoup d'avantages, hein. Je suis très, très, pro-techno dans le sens que ça va nous permettre d'incorporer ces données-là dans des modèles qui vont simuler, des scénarios futurs très divergents. Hein, parce que là, on rentre dans l'incertitude, on ne sait pas quelles vont être les conditions futures. Donc, l'idée, ce n'est plus d'utiliser des modèles qui nous donne une prédiction. Voici ce que la forêt va être dans 100 ans et voici ce qu'on doit faire aujourd'hui. De plus en plus, on regarde des modèles qui vont incorporer un degré d'incertitude très large. Ça peut être comme un entonnoir. On sait qu'on est là aujourd'hui. Dans le futur, on a cette zone de possibilité. On ne sait pas ça va être laquelle, mais on peut regarder quelle est l'action aujourd'hui qui va nous donner les réponses qui vont nous permettre d'être le plus flexible, peu importe quelles vont être les conditions futures. Prenons l'exemple, le longicorne asiatique arrive dans 10 ans et détruit tous nos érables. C'est possible. Les gens pensent que c'est impossible, mais c'est possible. Pensons à l'espèce qui a disparu aux États-Unis, j'oublie son nom là, actuellement, mais ça va me revenir. Mais il y a une espèce qui est complètement disparue aux États-Unis dans les années 1900 à cause d'un champignon asiatique.
Le châtaignier,
Le
l'orme.
châtaignier, voilà, le châtaignier. Et on parle de milliards d'arbres, hein, qui avaient une importance économique, sociale, culturelle importante. Donc, ça peut arriver à l'érable à sucre. Et donc, moi, aujourd'hui, quand je fais des études, soit dans ma forêt de 40 hectares en Outaouais ou dans les forêts du Sud, ici au Québec, mais aussi ailleurs, je travaille beaucoup en Europe et même en Amérique du Sud, bien, je me dis, il faut considérer les possibilités qu'il y a des espèces qui vont disparaître, qui sont très, très importantes aujourd'hui, et donc se dire quelle décision on doit prendre aujourd'hui qui considère cette option-là. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Et l'idée, là, je reviens avec tous les outils qui sont en train de se développer, je pense qu'on va arriver à faire ce qu'on appelle un genre de foresterie de haute précision. Ça veut dire que l'aménagement qu'on va faire dans une forêt de Monsieur X ou de Madame Y va pas être la même. Ça va dépendre de ce qu'elle a dans sa forêt, de ce qui l'entoure et peut-être jusqu'à un certain point des objectifs de cette personne-là en termes d'aménagement. Là, je parle de forêt privée et moi, je vois beaucoup de potentiel là-dessus. Donc, ça, c'est sur le reportage futur. Évidemment, on peut utiliser ces informations-là pour continuer à simplifier nos forêts, maximiser la croissance de quelques espèces. Oui, on peut arriver à faire ça. Donc, l'idée, ça peut être utilisé pour aller dans les deux directions. Mais je pense qu'il faut à ce moment-là pousser vers la bonne direction et ces outils-là vont devenir très, très utiles. Le reportage d'enquête, je l'ai regardé, j'ai plus ou moins aimé parce que j'ai trouvé qu'il essayait de ratisser beaucoup trop large, d'essayer d'attaquer beaucoup trop de problèmes en même temps, et que le problème de un monsieur ou une madame qui dénonce la mesure de bois et tout ça, bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, c'est une personne. C'est très facile de trouver dans un milieu donné un employé qui n'est pas très content, qui est prêt à dénoncer. Mais même si c'est vrai, même si on perdait 25 % de nos revenus, ce n'est pas ça le gros problème de la foresterie au Québec. Je pense que le gros problème, c'était le manque d'aires protégées. Ils en ont parlé un petit peu. Et malheureusement, ils n'ont pas parlé vraiment de cette simplification de la forêt de ce manque de diversification, des menaces futures. Ça, c'est tout un pan qui n'a pas été exploré, qui aurait dû être exploré, selon moi. Mais je pense que tu as raison quand tu as dit que c'est comme un thème qui revient de façon régulière. Il y a eu l'aurore boréale qui avait secoué un peu le Québec. Et là, cette enquête va avoir un effet probablement positif. Est-ce que le ministère est très près de l'industrie forestière? Oui, on le sait. Elle a une mission très, très économique et ça, on le sait. C'est probablement pas aussi pire que présenté dans une émission comme Enquête qui se veut un peu sensationnaliste, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Mais je pense que ça présente, en fait, j'ai beaucoup aimé ces deux émissions-là parce que à chaque fois qu'on parle de forêt dans le milieu public et que les gens se questionnent sur le futur de la forêt, c'est là où les nouvelles idées et que peuvent peut-être trouver une place ou un terreau fertile. Et donc, pour moi, à chaque fois que ce genre de brassage d'idées-là, je me dis tant mieux. Hein, d'ailleurs, directement après l'enquête, j'ai contacté le ministre des Forêts et son cabinet pour leur dire, écoutez, il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut faire. Et ils étaient très réceptifs. Mais s'il n'y avait pas eu enquête, probablement qu'ils auraient été moins réceptifs. Tu vois un peu l'idée? Donc, on est un peu opportuniste, mais un peu la même chose qu'après l'aurore boréale, les écologistes ont été beaucoup, beaucoup mis à profit. On nous écoutait, on nous disait qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et ça a eu un effet quand même, peut-être pas aussi bénéfique que j'aurais voulu, mais quand même, il y a eu des améliorations, il faut les reconnaître.
Intéressant, merci pour ta perspective. Sur la question de la résilience aux forêts, okay? On va y aller, mettons, concrètement, là. Moi, je suis un propriétaire de forêts privées là, dans la vallée du Saint-Laurent, disons, l'érablière à bouleau jaune, j'ai une érablière et j'ai un désir de pérennité, admettons, de ma forêt. C'est quoi le portfolio de scénarios catastrophiques auquel est soumis ma forêt, admettons, dans les 50 prochaines années. Puis, quel type d'action je peux mener pour assurer sa pérennité dans le temps?
Écoute, évidemment, ça dépend de la diversité actuelle de ta forêt, mais les scénarios catastrophiques là, dans lesquels je baigne actuellement, c'est qu'on va perdre 50 % de nos espèces d'arbres dans les 100 prochaines années au Québec. Il y a eu un rapport de l'IUCN en Europe qui prédisait exactement la même chose pour les forêts d'Europe. Ils vont perdre 50, 40 à 50 % de leurs espèces.
Dû à
Dû à un peu les changements climatiques, mais beaucoup les insectes et les maladies exotiques qui sont en pleine expansion pour plusieurs raisons. Puis on va prendre la vallée du Saint-Laurent. Vous savez que ici, quels sont nos grands partenaires commerciaux? Évidemment, les États-Unis, mais beaucoup l'Europe et beaucoup la Chine. Et si on regarde l'Europe, la Chine et les États-Unis, on baigne dans les mêmes biomes. Donc, c'est le même genre de forêt tempérée, avec les mêmes genres d'espèces, des érables, des bouleaux, des noyers. Et à chaque fois qu'un avion se pose ou un bateau arrive, il y a un risque qu'un insecte, une maladie d'Europe ou d'Asie arrive ici et se propage. Et que nos espèces qui sont présentes ici n'ont aucune défense. On a vu ça avec la grêle du frêne récemment, la maladie hollandaise de l'orme, la maladie corticale du hêtre, il y en a d'autres. Et ça s'accélère. Et d'ailleurs, il y a un article, un très bon article publié il y a quelques années qui faisait un recensement d'environ 25 maladies et insectes présents aux États-Unis qui migrent vers le nord et qui risquent d'avoir des effets importants sur la majorité de nos espèces forestières. Donc, scénario catastrophique, on perd 50 % de nos espèces et dans certaines forêts, ça peut être 80 %. Et à ce moment-là, on doit commencer à aujourd'hui Et à se poser la question, bon, faire l'inventaire de ce qu'on a, d'essayer de voir est-ce qu'on a une bonne diversité d'espèces qui, peu importe ce qui va se produire, vont permettre à cette forêt-là de s'auto-régénérer, de s'auto-organiser par elle-même pour qu'elle maintienne un couvert forestier fermé. C'est ça l'objectif, parce que si on a un couvert forestier fermé, bon, on a du carbone de fixer, on a de la filtration de l'eau, donc on a de l'eau de qualité, on a des habitats pour la biodiversité, mais probablement on n'aura pas les mêmes espèces. On doit abandonner l'idée, tu parlais de pérennité, moi je pense qu'on doit abandonner l'idée qu'on va avoir exactement les mêmes espèces dans le futur. Il y a des espèces qui vont disparaître. Par exemple, moi dans ma forêt, j'ai beaucoup de pruches et il y a un petit insecte, je ne me souviens plus du nom, mais il y a un petit insecte qui est en train de migrer, qui est rendu à nos portes, qui tue les pruches. Hein. C'est en train de dévaster les pruches au sud, aux États-Unis, mais ça s'en vient ici. Donc, je peux très bien prévoir que d'ici 30 ans, mes pruches sont disparues. J'ai beaucoup d'érables et je fais du sirop d'érable. J'espère de conserver mes érables, mais j'ai comme l'idée que peut-être le longicorne asiatique ou un autre insecte qu'on ne connaît pas ou une maladie va venir détruire mes érables et que peut-être j'aurai plus d'érables. Donc, l'idée, c'est de regarder ce qu'on a comme portfolio d'espèces d'arbres et de s'assurer qu'on a une grande diversité fonctionnelle, comme j'ai mentionné, qui va permettre à ces arbres-là à résister à des vents de plus en plus violents, des sécheresses de plus en plus importantes, mais aussi toutes sortes d'insectes et maladies qui peuvent tuer seulement une espèce ou totalement un genre. Donc, il faut vraiment une bonne diversité. Et cette diversité-là doit être bien répartie au niveau spatial pour que, via la dispersion des graines, on puisse assurer une régénération naturelle de ces forêts-là. Parce que je ne suis pas convaincu qu'on va avoir les ressources financières dans 30 ans lorsqu'on va avoir une mortalité assez importante pour aller replanter nos forêts systématiquement. Donc, on peut commencer dès maintenant. D'ailleurs, j'ai une approche que j'appelle de réseau complexe, qui est vraiment basée sur la science de la complexité, où on analyse nos peuplements forestiers comme des réseaux complexes. On regarde quelle est la capacité de dispersion de différentes espèces d'arbres et on peut déterminer là où on doit intervenir aujourd'hui ou dans les 20 prochaines années, peut-être sur 30% du territoire pour créer un réseau de nouvelles espèces qui ont une bonne capacité de dispersion, qui vont pouvoir venir régénérer nos forêts naturellement si les forêts subissent de grandes perturbations. J'utilise souvent le mot vaccination ou immunisation de nos forêts. Et ça, c'est une approche que je développe et qui m'apparaît une solution intéressante pour s'assurer de maintenir un couvert forestier d'arbres. Donc, de pérenniser notre forêt dans le futur. Et je dis que la meilleure façon de faire ça, ben, c'est via des coupes forestières. Et c'est là où les gens, quelquefois, sont choqués, mais je dis, si vous avez une forêt et que vous avez peu d'espèces ou des espèces très peu adaptées à ce qui s'en vient, la meilleure chose que vous pourriez faire, ce serait de commencer à faire des coupes dans votre forêt, commencer à planter des espèces qui ont des traits différents pour essayer d'augmenter la diversité fonctionnelle de votre forêt et s'assurer que dans le futur, peu importe ce qui va se produire, votre forêt va pouvoir se régénérer naturellement. Et comme bon scientifique, ben moi j'ai un 40 hectares en Outaouais et j'ai commencé à faire ça dans ma forêt. J'ai une diversité intéressante d'espèces d'arbres, mais la majorité de mes espèces sont très peu tolérantes à la sécheresse et on nous prévoit des période importante de sécheresse. Donc, j'ai commencé à planter beaucoup de chênes, beaucoup de pins, certaines espèces rares comme le charme qui sont présents dans nos forêts. Et les arbres que je plante ne sont pas des arbres qui ont des intérêts commerciaux. Pour moi, ce n'est même plus la question. On doit planter des espèces qui ont des traits fonctionnels très diversifiés, qui vont venir complémenter les traits fonctionnels de ma forêt actuellement. Et c'est avec cette diversité-là que je vais m'assurer d'avoir une forêt que je vais pouvoir léguer à mes enfants et mes petits-enfants, peut-être pas les mêmes espèces, mais quand même une forêt qui continue à fournir les fonctions qui sont importantes pour nous et le maintien de la biodiversité.
Peut-être rapidement, si on peut rentrer là, dans le détail des fonctions, toujours dans notre érablière, c'est quoi les grandes cohortes de fonctions, tu sais? Puis, admettons, là, je prends la famille des bouleaux, quel type de fonctions elles ont, la famille des érables ou d'autres familles d'arbres, quelles sont les grandes fonctions pour m'imaginer la diversité que je veux soutenir là, dans ma forêt?
Ouais. Bien, il y a à peu près trois grandes fonctions qu'on regarde. Un, il faut des espèces qui sont de familles différentes. Pourquoi de familles différentes? Parce que souvent, il y a des maladies et des insectes qui attaquent une grande famille ou des genres différents. Donc, il ne faudrait pas seulement les mêmes genres ou les mêmes espèces. Ça, c'est la première chose. Deux, on nous prévoit des épisodes de changement climatique importants avec des extrêmes climatiques importants. Ça veut dire plus de sécheresse dans certains cas, peut-être plus d'inondations dans d'autres cas, donc ça dépend où on est. Mais aussi des températures très élevées. Il y a des espèces qui tolèrent bien des températures élevées. Il y en a qui tolèrent pas tellement bien des températures élevées. Il y en a qui tolèrent mieux la sécheresse ou pas. Et ça, c'est l'autre type d'adaptation. Donc, on doit vraiment regarder, avoir des espèces qui vont bien tolérer des extrêmes climatiques pour que peu importe ce qui va se produire, on va avoir des espèces qui vont en profiter, qui vont prendre le dessus et qui vont pouvoir se régénérer. Et la troisième grande catégorie, je pense, c'est surtout les périodes de vent importants. L'Europe en a eu des périodes de vent très importantes. On commence à en avoir en Outaouais. Et il y a des espèces qui sont très, très mal adaptées à ça. Là, je pense à peu près à tous nos sapins, nos épinettes. Il y a des espèces qui sont beaucoup plus tolérantes, les érables, les chênes. Donc, il faut regarder ces grandes catégories-là. Et j'ai oublié aussi le feu. Le feu est important. On en parle peu encore dans nos régions, mais avec les sécheresses, il va y avoir plus de feu. Donc, il nous faut des espèces qui sont capables de soit résister au feu. Là, je parle de pins rouges, par exemple, mais aussi surtout des espèces qui peuvent régénérer via un drageonnement des racines. Il y a plein d'espèces que lorsqu'il y a un feu, ils vont revenir juste par drageonnement. Les chênes le font très bien à partir de leur tronc, mais il y a les peupliers qui vont pouvoir drageonner. Donc, c'est ce genre de mélange de traits fonctionnels qui permet à une forêt de continuer à s'auto-réguler, à s'auto-adapter, peu importe ce qui va arriver, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Hein? On ne sait pas. On sait qu'il va y avoir des changements climatiques, mais on ne sait pas ça va être quoi l'ampleur. Les insectes, les maladies, on ne les connaît pas. Et il va y avoir des interactions, il va y avoir de l'incertitude. Et donc, c'est de vraiment se vacciner contre l'incertitude. Mais il y a des approches comme ça, très, très concrètes, dans la sélection des espèces qu'on doit établir. Et ça le diagnostic se fait peuplement par peuplement, parce que pour tel peuplement, si vous avez beaucoup de chênes, bien, vous allez planter d'autres espèces. Mais si vous avez peu de chênes, peut-être vous allez planter plus de chênes. Et l'idée, c'est d'essayer de diversifier notre forêt. On est chanceux ici au Québec, on a quand même une cinquantaine, soixantaine d'espèces d'arbres. Bien que je ne suis pas contre l'idée de commencer à faire de la migration assistée, donc de peut-être prendre des espèces qui sont présentes au nord des États-Unis, qui ne sont pas encore présentes ici, mais qui peuvent maintenant bien s'établir ici, de commencer à faire ce genre de migration-là.
Très intéressant parce que, surtout pour les PFNL, là, si on peut migrer des arbres à noix, par exemple, dans des régions
Tout à
plus
fait.
nordiques,
Tout à
ça
fait.
pourrait être quelque chose
Tout à
de
fait.
très intéressant. Christian, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Vraiment, on a à peine touché tous les enjeux qui touchent notre forêt actuellement. Je sens une certaine anxiété s'élever en moi à t'écouter parler. Mais je pense que j'espère que ton approche pourra toucher nos autorités publiques, là, puis que la dernière indignation publique qui s'est touchée, qui a touché nos autorités puisse permettre à des scientifiques comme toi de parler de ce que vous voyez, de ce que nous, on n'arrive pas à percevoir, et que on pourra changer les choses et changer de paradigme. Donc, Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, Sam. Puis je comprends que mes propos peuvent être anxiogènes, mais comme tu as vu, on essaie d'apporter des solutions, donc d'essayer d'un peu
Absolument.
rassurer les gens. Merci beaucoup.
Absolument. Merci, Christian. À la prochaine.